Crío cuervos.
Crío cuervos.
Crío cuervos.
Crio Cuervos se veut un espace pour rendre visible ce que l'on cache dans les institutions du pouvoir et au plus profond de nous, ce qui nous fait peur et nous fait obéir. Un témoignage de nos tristesses, de nos joies, de nos défaites et de nos victoires. Une expression de la douleur qui nous fait sentir vivants ou qui nous crève, un peu de la pétarade euphorique qui nous fait exister. Un lieu pour détruire tout ce béton et ces barbelés qui enserrent nos têtes. Un temps pour échanger des savoirs et des expériences, pour se réarmer et vivre selon nos désirs. Un temps pour parler comme on l'entend, en se contrefoutant des codes policiers de l'expression raisonnable. Un espace où les fêlés du casque ont libre antenne, un lien vers la révolte. Crio Cuervos prétend être un outil de résistance au pouvoir psy. Un élan vers des pratiques collectives, dans un processus de libération de la psychiatrie. Nuestra pasión no es diagnosticable. Notre passion n'est pas diagnosticable.
Mais aujourd'hui, au sommaire, on aura comme toujours des brefs. Après, on vous présentera les contextes ici et en Suisse. Après, on vous parlera des rencontres faites avec la ATDB, que ce n'est pas les TDB, les squats transpédéguines de Toulouse, sinon l'Association des troubles bipolaires et dépressives, qui est une association d'usagers de Suisse. Et pour finir, dans la dernière partie, on va vous parler des rencontres dans l'infokiosque d'une grande maison collective à Genève. Et voilà, on est de retour sur les ondes après l'été, et ça nous fait plaisir.
Et on est en pleine forme. Et du coup, on va commencer par des brèves, quand même, comme le rituel le veut. Du coup, je vais me lancer. J'ai deux brèves à vous proposer dans toute la liste des moult choses qui se passent dans les semaines qui viennent de s'écouler. Notamment dans la suite de la réforme des modes d'hospice qui fait s'arracher les cheveux à beaucoup de soignants, psychiatres qui ont du mal à rédiger correctement comme le veut la loi. Mais des fois, c'est au bénéfice des personnes qui se retrouvent enfermés en psychiatrie sans leur consentement. Et par exemple, j'ai pu lire sur le site du CRPA, qui est un organisme qui s'occupe justement de la jurisprudence et des droits des personnes psychiatrisées, j'ai pu lire ce compte-rendu correspondant... d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy qui précise la jurisprudence sur la notion de péril imminent dans l'hospitalisation sur demande d'un tiers. Par péril imminent, il peut être facile d'entendre « cette personne est dangereuse, enfermons-la ». Et cette Cour administrative d'appel de Nancy a rappelé quand même que le cadre était nettement plus précis. Et en l'occurrence, il faut que la personne soit en danger pour elle-même. Et la situation qui a servi de clarification est celle d'un homme qui est arrivé armé d'une carabine disant qu'il voulait tuer son père et son chien, qui était par ailleurs alcoolisé et qui s'en sait pas très bien. Mais on ne peut pas se servir du fait que la personne voulait tuer son père pour l'interner en prétextant qu'elle était en péril imminent. Voilà ce qu'a pu rappeler la Cour. Et du coup, le certificat médical était nul. Voilà, annulation.
D'où l'intérêt de la jurisprudence.
D'où l'intérêt de la jurisprudence pour bien clarifier les choses, même si normalement c'était précis, quoi. En l'occurrence, la précision pour péril imminent, donc. Alors, la Cour a rappelé que le certificat médical doit exposer de manière complète et circonstanciée la nature et la gravité des troubles affectant l'intéressé et préciser d'une part les particularités de sa pathologie et les éléments constitutifs d'un péril imminent pour sa santé et d'autre part qu'ils imposent des soins imminents immédiats et qu'ils rendent impossible son consentement.
Donc péril imminent pour sa santé et pas pour trouble à l'ordre public ou la santé du bon citoyen qui se promène en ville.
Voilà, rappel à l'ordre. Ils ont même été poussés le vice, les juges, jusqu'à rappeler qu'il aurait quand même été préférable de choisir une procédure adéquate qui était celle de l'hospitalisation d'office sur décision du représentant de l'État. Parce que, en l'occurrence, la situation répondait plutôt aux critères de troubles qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Et donc, on voit en combien d'années la loi met du temps à réguler les bêtises inventées par nos chers ministres et bureaux des conseillers.
Exactement. Voilà.
Du coup, moi, j'aimerais bien vous parler d'une petite nouvelle. Alors, ça a l'air d'être une grande nouvelle pour certains, mais apparemment, l'AH, donc l'allocation adulte handicapé, qui est une allocation qu'on propose c'est une sorte de revenu minimum pour les personnes, entre guillemets, handicapées, pour faire face aux dépenses de la vie courante. Cette allocation, elle est rehaussée en septembre 2012 à 776,59 €. L'augmentation, ne vous inquiétez pas, ne dépasse pas 16 € de plus que ce qui était prévu. Alors, certains diront 776 €, c'est bien suffisant pour vivre. D'autres ont un peu les glandes de vivre avec ça. Il faut savoir aussi que pour toucher ce taux plein, il faut 80% d'invalidité. Si on est en dessous, entre 50 et 79%, on perçoit bien sûr ce qu'on appelle une pension résiduelle à l'activité qu'on peut fournir. Il faut bien sûr avoir un titre de séjour pour prétendre à ça ou être domicilié en France. Voilà, donc merci pour cette augmentation qui va largement élargir le pouvoir d'achat et la vie des gens qui sont étiquetés handicapés et qui ne travaillent pas.
C'est ça. Quelques paquets de clopes et quelques packs de bière en plus pour supporter
l'ambiance. La hausse du tabac.
Ouais.
Voilà. Et moi, je vais vous présenter une nouvelle tout fraîche, que comme d'habitude, moi, j'aime bien recueillir un magnifique torchon comme c'est le Figaro. Alors voilà, ça a été publié hier dans cet extraordinaire journal, dans sa version internet. Et le titre, c'est « Un magazine sur l'exorcisme en Pologne ». Dis donc, alors voilà, qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est un film? C'est quoi? Mais non. Alors, dans cet article, ce qu'il dit, c'est que c'est un magazine qui s'appelle Exorcista, j'imagine que je ne sais pas si ça se prononce comme ça en polonais, je crois que oui. Et voilà, ils disent qu'ils sont déjà vendus 15 000 exemplaires et ça coûte que 3,10 $. Et voilà, après, dans l'intérieur, on peut trouver des magnifiques articles du genre Satan est réel ou la New Age, le nouveau spiritualisme. Voilà, des trucs magnifiques. Alors, ce qui se passe, c'est que dans cette. Dans la présentation de cette revue, de cette magazine, il y a eu un professeur qui s'est dit philosophe, théologue, démonologue et bien évidemment exorciste.
Démonologue, ça
voilà.
C'est
bon. Alors il est un peu tout, il fait un peu tout apparemment. Alors lui, il souligne l'impuissance des différentes écoles de psychologie et de psychiatrie quand elles sont confrontées à des comportements extrêmes que les thérapies conventionnelles ne parviennent pas à guérir. Bien évidemment, c'est les derniers recours qu'on est complètement désespéré. C'est assez dommage voilà, pour les personnes qui font suivre ça, et surtout aussi pour la famille aussi, qu'on est complètement démunis. Voilà, on va faire appel à un magnifique exorciste. Et apparemment, en France, c'est arrivé aussi, d'une certaine manière. Bon, aussi, dans cet article, il y a des jolies perles du genre la possession et ce qui résulte du fait de commettre le mal, voler, tuer et des sautes péchés. Bon, des sautes péchés, on ne sait pas, mais voilà. En tout cas, il ne faut pas pécher, sinon tu vas te faire un copain du démon qui va venir dans ta chair. Et aussi, ils disent que les démons sont aussi selon un protocole des prières rituelles qui ont été approuvées en 1999 par les papes d'origine polonais Jean-Paul II. Ça veut dire que c'est sponsorisé. Ça veut dire que les exorcistes, ils sont sponsorisés par les papes même. Alors là, si ça vous fait pas assez peur, maintenant c'est les papes qui mettent la main dessus. Et pour dernière magnifique information, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a une liste d'attente de 3 mois. À Varsovie. Alors voilà, cas où vous vous sentez un petit peu pas très bien, si un jour vous êtes un peu triste, vous n'avez pas très bien dormi, bon, prenez un rendez-vous et dans 3 mois, si vous n'allez pas mieux, mais voilà, vous pouvez toujours faire appel
à l'église de Scientologie,
ou même à l'EHPAD même. Voilà, alors ça fait un peu peur quand même. C'est pas un film.
Du coup, merci la religion de mettre le nez dans la santé. Ça ouais. Sympa.
On n'avait pas assez avec la science, maintenant avec la religion. Ah,
voilà.
Cool.
Et du coup, avant de vous présenter un peu le contexte psychiatrique en Suisse, on vous passe un petit morceau de musique. Ce n'était pas un morceau de musique, on recommence.
C'est Les corbeaux.
Ouais, les corbeaux, qu'est-ce qui m'est arrivé?
C'est ça, avec l'automne et la morbidité ambiante. Le corbeau exorciste-t-il?
Yeah.
du tout. Du coup, c'était les clébards et un petit coin d'œil à tous ces gens perdus au coin des rues, même si certains le choisissent, et c'est peut-être une solution d'être dans la rue.
Et on vous rappelle qu'un peu que ça nous fait toujours grand plaisir si vous nous appelez. Alors, on vous rappelle les numéros, c'est les 05 61 53 36 95. Alors, vous pouvez toujours appeler. C'est préférable pendant les morceaux de musique, mais même si ce n'est pas pendant les morceaux de musique, ça fait toujours plaisir. Ça va faire un petit peu plus de bazar. La personne qui a la technique, elle est super contente, évidemment. Alors, voilà. En tout cas, ça nous fera grand plaisir s'il y a quelqu'un qui appelle.
Bon, allez, hop, on passe à la matière dure, à la matière sèche.
La matière Suisse... organique.
La matière organique. La Suisse, pourquoi la Suisse ? Parce que, bon, alors la Suisse, parce qu'en réalité, on a été invité en Suisse, là, fin août, par toute une bande de gens qu'on va vous présenter au fur et à mesure. Et notamment, en fait, le noyau dur de la cause de cette invitation, c'est une copine qui fait partie du psy-bloc de l'info-kiosque Genevois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité à Genève ? Le 5 juin, ils ont fait une discute au sujet de la psychiatrie à l'info-kiosque. Et dans la suite de ça, ils ont fait une émission 2 semaines plus tard qui est écoutable sur le site de Radio Usine. Donc il faut taper radio-usine.net et chercher l'émission De Bruit et de Fureur. C'est l'émission du 17 juin, donc. C'est une émission très riche, hein, qui dure 3 heures, avec à la fois un interview d'un psy genevois, des interviews de gens de Toulouse et d'Ariège, plein de petites chroniques rigolotes, des réflexions un peu critiques et lucides sur l'autodéfense psychiatrique, etc. Le parti pris étant de parler de la psychiatrie à la place des habituels confiscateurs du discours à ce propos.
Prenons la parole.
Et voilà, c'est toute une bande de gens super chouettes qu'on a eu l'occasion de rencontrer sur une semaine, grosso modo. Moi, j'aimerais bien mettre en exergue d'abord les propos d'un poteau qui voudrait pouvoir parler de la psychiatrie dans une perspective d'autodéfense prolétarienne.
Au moins, c'est dit.
Rien que ça, voilà.
Rien que ça, ouais.
Ouais.
Ça chauffe.
Parce que, voilà, lui, il a été amené à fréquenter des psychothérapeutes, notamment, et il était vraiment au regret de voir que ces soignants-là amputaient toute une partie de sa personne, qui était la partie politique, et il lui semblait quand même judicieux de pouvoir repolitiser, je le cite, hein, repolitiser et dénombriliser ce qui est abordé en thérapie dans le collectif. Repolitiser...
Dans l'individuel.
Bref, j'ai mal pris mes notes.
Allez, répète.
Pouvoir repolitiser en thérapie et dénombriliser collectivement.
Ouais.
Wow.
Ouais, ou bref, vous prenez les deux termes, vous faites un shaker. Et, pour, on va dire plutôt ça, se désincarcérer de l'approche individualiste qui est imposée en psychiatrie. L'idée que vous êtes toujours en face à face, c'est pour parler de votre nombril. Et en réalité, toute cette matière-là, il faut pouvoir l'aborder aussi collectivement, en refaire un objet du politique.
Et tenir compte de la précarité sociale qui entoure
tout
les prolétaires.
Fait.
Les prolétaires.
Des prolétaires, voilà.
Ça rejoint un peu le propos des SPK où finalement c'est cette société qui nous rend malades et que c'est le capitalisme le vrai problème.
Voilà, oh, exactement. Et qui en a marre de la bourgeoisie viennoise du 19e.
Alors là, on était dans un pays riche, hein,
oui,
Genève, les cantons.
Des diamants,
Suisse,
des
Rolex,
des banques.
C'est assez... voilà.
Plein d'hommes en costume.
On a cherché un petit peu quelle était la situation psychiatrique à Genève. Donc ça ressemble un petit peu à la France depuis 1982, en gros, puisqu'il y a un principe de sectorisation. Alors on a trouvé un petit peu surtout sur le canton de Genève où il y a 4 secteurs différents et chaque secteur a des unités hospitalières. Ils ont des centres de thérapie. Bref, en France, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une à Purpan, c'est une où on se présente et on y est pour, je crois que c'est 12 séances. C'est une sorte de packaging thérapeutique. Oui.
Un peu cognitivo-comportemental.
Ouais, ça dépend les services, mais c'est surtout, oui, effectivement, c'est souvent affilié. 12 séances, on sait combien de temps on va payer cette personne.
C'est un peu la bague dans tout le monde, en général.
Après, dans chaque secteur, il y a aussi ce qu'on appelle chez nous des centres médico-psychologiques, c'est-à-dire un lieu de consultation et des lieux d'activité, des lieux de vie et ce qu'ils appellent les centres d'occupation et de socialisation on peut peut-être rapprocher de nos ESAT, de nos centres Je ne sais plus ce que ça veut dire, mais c'est par le travail, en gros. Réadaptation par le travail, en gros. Voilà, donc le profil genevois ressemble à peu près au nôtre en termes de lieu de prise en charge.
On a vite fait... Je sais pas si t'avais fini sur le... On a vite fait eu quelques notions aussi concernant les modes d'hospice sous contrainte. Les infos que je vais vous donner sont issues de l'émission de Bruit et de Fureur. Et du coup, il précisait... quelque chose il précisait que en Suisse on parle de régime de privation de liberté à des fins d'assistance. On sent bien le vieux protestant qui veut porter aide à son prochain, sauf que il veut bien porter aide mais pour une durée indéterminée, et ce sera l'état, la nécessité de cette privation de liberté pour des vues de soins, donc en service de psychiatrie, sera évaluée par un juge sur la base d'un dossier médical tous les 4 à 6 mois, selon l'évolution du patient. Et sa sortie sera conditionnée par le fait qu'il est obédient au rendez-vous, qu'il prend bien ses médicaments, qu'il a compris qu'il était malade, qu'il était stabilisé. Voilà, pour en faire un bon petit bonhomme qui a le droit de sortir. Voilà. Juste un petit détail encore sur la Suisse. Dans la formation des psychiatres, encore jusqu'à maintenant, il y a un volet psychothérapeutique qui est obligatoire. Et ça, c'est vrai que c'est rare, quoi.
Ça veut dire qu'il faut qu'ils suivent une thérapie.
Exactement, ouais, ouais.
Qui est quand même peut-être une porte d'entrée dans cette posture de celui qui parle et qui se met à nu. C'est quand même pas mal. Après, ce que disaient les copains genevois, c'est qu'ils ont le choix de leur courant thérapeutique. Et ouais, effectivement, suivant le courant, on n'aborde pas les mêmes choses.
Ouais. Après, la vision du psychiatre qui était interviewé dans l'émission de Bruit et de Fureur, qui est présenté un peu comme un pote, plus ou moins, elle restait quand même assez proche, pour les médicaments et par rapport à la chambre d'isolement, comme on commence à l'entendre beaucoup en France, ils préféraient parler de chambre de soins intensifs de psychiatrie, parce que quand même, ça passe mieux et c'est plus proche du somatique.
Les mots, ça fait mal.
Ouais, voilà.
Du coup, il y a aussi l'assurance invalidité, qui n'est pas tout à fait la même que chez nous. Déjà, en France, pour accéder à une invalidité, il faut 6 à 1 année. En Suisse, ça peut prendre de 4 à 6 ans pour accéder à cette... alors, c'est une assurance obligatoire sur le territoire suisse. Et donc, c'est une assurance obligatoire payante, puisque en France, la Sécu, c'est pris dans les charges sociales des entreprises. En Suisse, c'est à la charge de la personne qui doit avoir obligation d'avoir son assurance maladie. Et donc, l'assurance invalidité, elle arrive après et elle sert de pension, comme chez nous, avec, on dit pension d'invalidité.
Ouais, avec quelques nuances. Bon, le montant d'abord, quand même, parce que le montant maximal pour l'AI s'élève... Alors, hop, je l'ai là. La rente d'invalidité complète est au minimum de 1140 francs suisses, donc à vue de nez, quelque chose comme 1000 euros par mois, et au maximum de 2280, donc mettons 2000 euros. On n'est pas tout à fait dans les mêmes montants de l'AH augmenté, quoi, clairement.
Clairement, on n'a pas les mêmes moyens.
Ouais. Son ricos, ricos.
Bon, la vie est plus chère. Il y a un truc qui est un peu plus pernicieux, c'est que les personnes qui demandent l'AI, donc l'assurance invalidité, sont quand même vivement incitées à trouver des emplois à temps partiel pour, je cite, « exploiter leur capacité de travail résiduelle », qui est de 20 à 30% quand on est estimé avec avoir un degré d'invalidité de 60 à 80%.
Résiduel.
Voilà. Et ça donne des situations assez cocasses. Le poteau dont je parlais tout à l'heure se retrouve actuellement à passer toute une batterie de tests en tout genre dans un établissement qui va être censé évaluer s'il est susceptible de pouvoir bénéficier de l'AI. Ça va du test psychotechnique à l'entretien pour évaluer ses capacités d'échange verbal. Et dans ce même établissement, il y a service de menuiserie, service, je crois, de restauration ou quoi, où on va évaluer dans un premier temps ses aptitudes professionnelles, et après on peut le faire turbiner gentiment comme dans un ESAT, et voir le mettre sur le marché du travail dans des micro-secteurs.
Et c'est quoi un ESAT?
Oh, tu nous la ressors. établissement...
qui vise à réinsérer par le travail.
Okay. Ouais, voilà.
En gros. Ouais. Du coup, en Suisse, nous avons rencontré une association qui s'appelle ATBND récemment. C'est une association de gens qui ont des troubles bipolaires et déprimés. Alors, cette association, en fait, c'est un groupe d'entraide qui se réunit. Donc, ils ont un petit peu écrit ce qui était ce groupe d'entraide pour eux. Ils disent un lien où s'exprimer en toute confiance, sans crainte d'être jugé, rencontrer des personnes avec des expériences de vie similaires, se soutenir mutuellement, partager des informations pratiques, et un lieu sans professionnel de soins, autogéré et ouvert. Alors, on a rencontré cette association par l'intermédiaire d'un copain qui officie et qui parle dans cette association. L'idée de cette association, c'est de se reconnaître à travers une pathologie qu'ils acceptent ou pas, mais commune, et de pouvoir, à travers cet outil, s'appuyer dessus. Et du coup, on a fait des petits groupes avec ces gens-là.
Ah oui, des petits groupes.
Des petits groupes, peut-être tu peux en parler un petit peu.
Mais on a parlé plein de fois déjà de l'importance de se retrouver à peu, parce que c'est plus facile de parler. Et avec eux, on les a un peu forcés. Ils avaient un peu déjà l'habitude à parler, pas entre beaucoup, mais nous, on les a forcés à parler entre trois.
Voilà. Du coup, on se remet un petit morceau de musique et on en parle.
Allez,
allez, ça marche.
Slashed and torn. Give love.
Et voilà, Under Pressure.
Coupé, Under Pressure.
Under Pressure, coupé. Et c'était Queen, David Bowie, tout ça. Juste pour citer une petite phrase, donc Under Pressure, sous pression. Et qu'est-ce que c'est que la pression ? C'est la terreur de savoir ce que c'est que ce monde. C'est regarder des bons potes gueuler, laisse-moi sortir.
Ah oh là, comment il est fort, hein ? C'est incroyable, ça. C'est magnifique. On dirait pas, hein, avec la musique comme ça, t'es tranquille et tout. Hein.
Tout.
Ah, tu croyais que c'était Vanilla, et si c'est pas. Alors, on va vous parler maintenant de la rencontre qu'on a fait avec cette association des usagers. Alors, comme d'habitude, ce que nous, on aime bien faire, c'est les petits groupes. Alors, ce qu'il les a proposé, c'est d'écrire dans un papier à chaque personne sur quoi est-ce que vous voulez discuter. Et nous, on trouvait que c'était intéressant de les faire comme ça personnellement et laisser le temps un peu aux gens de réfléchir sur quoi est-ce qu'ils voulaient réfléchir, parce que c'est important aussi. Et aussi, on trouvait que c'était bien de les faire dans l'anonymat, parce que parfois, il y a certains sujets tabous qu'on n'arrive pas trop à les exprimer, et avec un papier, en tout cas, ça peut aider. Et alors voilà, je vais vous parler d'abord des petits groupes que moi j'ai fait. C'était sur les rapports amoureux. On avait plutôt intitulé l'amour entre cicatrices, entre les patients, quelque chose comme ça. Et bon, alors pour vous parler de ça, la première chose que je voulais dire, c'est que ça va être plutôt les impressions que moi j'ai eues de ce groupe. Ce n'est pas tout à fait les notes qu'on a prises, parce qu'entre autres choses, c'est un petit groupe où tout ce qu'on dit, c'est anonyme. Alors voilà, il n'y aurait pas tous les témoignages de gens qui ont parlé, mais en tout cas, c'est qu'à moi, il m'a inspiré. Et alors voilà, la première chose que moi, en tout cas, j'ai remarqué, c'est qu'il y avait une certaine difficulté à tenir des rapports affectifs quand on n'allait pas bien. Bon, c'est une évidence, quand on ne va pas bien, c'est plus compliqué de tenir n'importe quel rapport, et quand c'est un rapport affectif un peu important, mais c'est encore un peu plus difficile. Et alors voilà, à moi, tout ça, ça m'a fait réfléchir sur pas mal de choses. Alors voilà, comme moi, ça me plaît beaucoup les fanzines et tout ça, les brochures, mais moi, ça fait un moment que j'avais commencé à lire des petits textes autour de ces sujets-là, la plupart en français d'ailleurs. Et alors voilà, je vous ai fait un petit résumé de qu'est-ce que je trouve que ça peut être important ou intéressant pour pas trop se casser la gueule dans ces rapports, parce que c'est important avoir une vie affective rempli, ou comme on voulait dire, mais que c'est important aussi qu'on ne se casse pas trop la gueule, parce que sinon, après, on a trop peur et on fuit les gens. Alors, la première chose que je voulais dire, c'est que normalement, la société en soi-même, elle est normée. Et nous, on a beaucoup parlé de ça dans cette émission, que la société, elle est remplie de normes et que nous, on essayons de les échapper. Et bien évidemment, dans l'affection, dans l'amour, mais oui, il y a aussi des normes. Et pour les gens qui ne rentraient pas dans cette norme, un des outils que j'ai pu trouver que c'était intéressant, comme même pour les gens qui rentrent dans les normes, mais en tout cas pour les gens qui sont dehors de la norme, c'est encore plus intéressant, j'ai trouvé que c'était la communication. Alors, dire qu'est-ce que c'est, ce qu'on ressent, ce qu'on veut, qu'est-ce que ça nous attend, qu'est-ce que ça nous craindre, et tout ça. Bon, bien évidemment, on ne va pas dire ça si on vient de rencontrer quelqu'un, c'est un peu compliqué de le dire, mais en tout cas, pour moi, c'est que ça peut être une bonne piste, c'est déjà communiquer. Bon, c'est vrai que l'outil de la communication, c'est très bien pour plein de choses, et pour les rapports affectifs aussi. Nous, on avait déjà parlé une autre fois dans l'émission des rapports coopératifs. Alors, ça c'est assez lié. Si on entretient un rapport coopératif avec la personne qui ressent de l'affection, mais ça s'est passé vachement mieux. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir communiqué ce qu'on veut, comment on ressent les choses, ce que sont nos attentes, nos craintes, etc., 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 on peut instaurer une espèce de formalisation de notre rapport. C'est un peu étrange de formaliser un rapport amoureux, parce qu'on dit, mais c'est quoi cette histoire? L'amour, c'est complètement irrationnel.
Ou alors, c'est le 5 à 7, là, c'est bien précis.
Le 5 quoi, c'est quoi?
Le 5 à 7.
C'est quoi le 5 à 7?
C'est comme le deuxième bureau, c'est ta rencard de 5 à 7, point barre.
Ah, mais voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant de mettre sous la table qu'est-ce qu'on veut de ces rapports. Ça veut dire, mais moi, je veux ça, et moi, j'aimerais bien qu'on travaille comme ça. Et finalement, c'est une espèce d'engagement. Parce que pour moi aussi, les rapports affectifs, ça implique un certain engagement. Ce n'est pas une histoire de se voir comme on veut ou pas. Ou oui, pourquoi pas, mais en tout cas, que ce soit clair. Alors, ça implique un engagement. Et pour qu'il y ait un engagement, il faut que ça s'instaure d'une certaine manière avec un dialogue. Et après avoir instauré ce dialogue, c'est bien aussi de les réévaluer parfois. Alors ça veut dire que peut-être au tout au début tu voulais une chose, mais après tu as vu à faire à mesure que tu veux une autre. Alors c'est bien aussi de réévaluer pour savoir où est-ce qu'on est. Alors aussi on pourrait dire que l'amour, l'affection, c'est une espèce de construction. On construit les chemins ensemble, c'est qu'on dit plein de fois, tu vois. Et alors, une autre idée qu'on pourrait introduire dans cette idée pour ne pas se casser la gueule, c'est faire un peu attention à l'idée des possessions. Dans toutes les cultures occidentaux, presque la plupart, on parle des possessions. On parle de que moi j'ai une voiture, c'est ma voiture. En espagnol, on peut dire es mi coche. En anglais, on peut dire is my car. Mais dans cette culture, comme cours des langues et tout.
Mais il y a aussi c'est mon enfant.
C'est mon enfant, ouais. Ah, ça, c'est encore. Oh, c'est ma copine. C'est encore pire. Mais voilà, en tout cas,
c'est la copine d'eux. C'est tu sais, une telle, la copine d'eux.
Ouais, voilà. Alors, en tout cas, il faut faire assez attention à ces rapports de possession parce que ça. Bon, et aussi, dans des autres cultures, ça n'existait pas, cette idée de possession. Mais bon, ça, on parlera nos jours de cette pareille idée, on va dire. Mais voilà, alors, pour empêcher cette idée de possession et la jalousie qui va avec, on peut parler des plein d'idées. Par exemple, les anarchistes à l'époque, ils parlaient d'amour libre. Maintenant, on parle plutôt des polyamours ou des non-exclusivités.
Ça fait un peu polypathologie. Hein.
Ouais, pour les polys surtout. Mais en tout cas, voilà, cette idée d'amour libre qui préconisait les anarchistes, bon, d'abord, si on ne veut pas être normé, on ne va pas donner une norme non plus, toi, que tout le monde doit rentrer dans cette case de l'amour libre, de la non-exclusivité. Chacun va vivre son affection, en tout cas pour moi, comme il veut, ça c'est évident. Mais en tout cas, je donne mon point de vue. Alors, la non-exclusivité, c'est que ça peut permettre, c'est que tu ne vois pas l'autre comme ta propre possession. Et après, peut-être que... En tout cas, au début, ça va être plutôt quelque chose de théorique. On va dire, écoute, toi, tu ne m'appartiens pas. Moi, je ne t'appartiens pas non plus. Après, on va voir si on arrive vraiment à être exclusif ou pas. Parce que parfois, on rêve des choses très, 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 très idéales, tu vois. Mais on est construit d'une certaine manière. On est construit d'une certaine manière et c'est un peu compliqué, tu vois, de se déconstruire tout ça. Alors voilà, en tout cas, pour moi, il ne faut pas trop culpabiliser si on n'arrive pas à être comme on rêve. C'est une des choses les plus dures, en tout cas, que moi, j'ai vécu. Mais voilà, mais c'est comme ça. Et voilà, je vais bientôt finir. Ouais, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous saouler encore. Mais il y a un truc que je considère que c'est important, que c'est la responsabilité affective.
Ah.
Alors, quand on parle de responsabilité affective, c'est que dans ce monde-là, on est imbué de libéralisme. On prend des marchandises, on la jette et tout ça. Alors, pour les rapports affectifs, c'est les mêmes. Ce n'est pas parce qu'on est libre de faire ce qu'on veut qu'il ne faut pas tenir en compte les affections. Alors, c'est que ça veut dire qu'il faut être un peu responsable. Et ça fait partie de la réévaluation, voir comment on se ressent, est-ce que ça te va ça ou pas. Voilà, on n'est pas des marchandises de JT, il faut faire attention avec les libéralismes affectifs. Mmh. Après, on arrive à les balances affectives, ce que ça veut dire qu'on peut être plus ou moins équilibré après une évaluation, voir où est-ce qu'on est chaque. Voilà, et l'idée, c'est que ça soit un équilibre le plus égalitaire possible.
Ouais.
Même peut-être au début, c'est un peu plus déséquilibré, mais à faire à mesure qu'on construit, on peut l'équilibrer.
Et c'est un vrai combat politique, pour le coup, cette responsabilité affective. C'est-à-dire, on ne dilue pas à la société le soin de gérer nos rapports avec nos proches. C'est nous qui gérons et qui laissons la place à l'autre.
Ouais, tout à fait.
C'est bien chouette, la responsabilité affective.
Cool.
Tout à fait. Et ouais, du coup, c'est vrai que je vais faire transition. La question des relations affectives, elle se retrouvait aussi dans mon groupe, puisque moi, c'était un thème qui, en fait, est paru trois fois. On était genre une douzaine, et sur les 12 thèmes proposés, il y en avait trois qui tournaient autour du même sujet, qui étaient, grosso modo, la réinsertion dans la vie de tous les jours, autrement dit, l'intégration du malade dans la vie actuelle. Et... on retrouve là toute la pression sociale se rabat sur la personne qui sort de l'HP, qui se retrouve dans la vie courante et quotidienne, qu'elle soit rurale ou urbaine, et on attend de lui qu'il trouve au moins deux piliers qui sont le travail et la relation affective, que ce soit la famille ou l'amant en général. Et donc avec les personnes avec qui j'étais, on était quatre, c'était un sacré souci, notamment, bon, on a beaucoup parlé du travail, parce qu'il faut savoir qu'en Suisse, j'ai un peu halluciné, sur le certificat, quoi, à la fin d'un contrat, l'entreprise vous signe un certificat de travail, quand vous avez arrêté de travailler pour cause de maladie et qu'il y a eu un arrêt de travail, l'employeur spécifie la nature de ce souci de santé. Théoriquement, il doit dire que du bienveillant. Elle s'est absentée 3 semaines consécutives. Je sais pas, voilà, parce qu'elle n'était pas bien, nanana. Mais en réalité, généralement, la nouvelle entreprise qui va vous embaucher après avoir lu ce certificat de travail peut au préalable appeler votre ancien employeur et savoir « Ah, mais alors ça voulait dire quoi ? Elle n'était pas bien. »
Donc, ils officialisent ce qui se fait en France de manière informelle.
Voilà, tout à fait. Mais c'est aussi dans l'idée de ne pas mentir, dire la vérité, quoi. Parce que quand même, Suisse protestante.
Oui.
Voilà. Remarque, Genève, c'est peut-être un peu plus catholique qu'autre chose. Mais
bon, en tout cas, c'est pas très différent.
Ouais, en tout cas, voilà, les gros dossiers vous suivent et c'est la grande angoisse. Et donc, la discussion, elle tournait pas mal autour de si je m'inscris au chômage, est-ce que... parce qu'en Suisse, je sais pas si c'est comme ça en France, si on cherche un boulot qu'à mi-temps, par exemple, parce qu'on n'est pas capable de bosser plus qu'un mi-temps, parce qu'on n'a pas envie de bosser plus qu'un mi-temps, parce que ça nous fragiliserait, et ben du coup, on touchera des indemnités à moitié, et pas le taux plein d'indemnités.
Ça doit être équivalent en France, je pense.
Bah, j'en sais rien, je pratique pas assez. mais voilà, donc c'était le gros stress, parce que la personne concernée, elle savait pas comment faire, elle avait en plus... voilà, des frais de vie importants parce qu'elle avait un niveau de vie assez élevé, etc. Donc, c'était vraiment l'angoisse. Donc, on a beaucoup parlé de ça, du travail, de l'allocation d'invalidité là, dont on vous a parlé tout à l'heure. Comment, par exemple, il y a une personne, elle avait déposé sa demande en 2004 et elle a reçu les premiers versements en 2011. Donc, quand même, il faut avoir les reins solides pour tenir. Et voilà, ouais. Bon, après, on a parlé plein d'autres choses et c'était super chouette, forcément, parce qu'on a pu parler qu'est-ce que ça nous apporte notre vécu en psychiatrie quand on en sort, grosso modo, quand on revient dans la vie, quand on sort de l'HP. Et il y avait les deux pendant, quoi, les deux plateaux de la balance, encore une fois, entre la personne qui disait « Mais moi, si c'était à refaire, je suis prête à revivre tous les délires que j'ai vécu, tous les trucs qui m'ont... » Même si ça me sort aujourd'hui de mon cercle habituel, même si je perçois bien dans le regard de mes amis d'enfance qu'elles n'ont pas envie de chercher à me comprendre et que je ne suis pas à l'aise dans la réunion de femmes au foyer.
D'anciens combattants.
Ou même pas de femmes au foyer. Elle parlait de femmes super pouvoirs qui cumulent vie sociale, vie professionnelle, nanana. Et elle disait, mais rien à foutre, moi j'ai souvenir de m'être allongée un jour contre un cheval et d'avoir senti qu'il ne voulait pas partir. J'en ai parlé à la personne qui voulait l'emmener. Et voilà, comment elle a pu vivre des moments super intenses. Bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, de l'intensité de l'instant que rend possible le délire. Et à l'inverse, il y avait une nana qui disait, mais bon, moi j'entends ce que tu dis, mais je peux pas faire une croix sur... moi, la merde dans laquelle ça m'a foutu, la multiplication de mes hospitalisations et surtout les contextes assez violents où les flics m'attrapent dans la rue, etc., qui font que, elle, si c'était à refaire, peut-être elle choisirait une vie plus sereine, quoi. Voilà, c'était bien, c'était chouette. Et c'était, quoi, voilà, je trouve que c'est assez caractéristique de ce qu'on peut faire entre personnes passées par l'HP, parce que sinon c'est vrai que les termes de réinsertion sociale dans les milieux militants qu'on côtoie habituellement, c'est pas forcément prioritaire, mais il faut rester conscient que ça questionne beaucoup de gens et que pour faire le chemin de je vais me décaler par rapport à la norme, c'est pas si simple. Et à Saint-Thé, par exemple, ça a fait l'objet de discussions assez houleuses où il y avait un gars qui se positionnait anarcho-couillu en disant...
Anarcho-quoi ?
Le travail, c'est de la merde, tu veux aller bosser, mais va te faire exploiter. Moi, c'est pas un propos que j'ai envie de tenir avec des gens qui ont le parcours que j'ai eu, quoi.
Voilà. Bon, en tout cas, tu peux l'expliquer que peut-être le travail, c'est pas la santé, mais en tout cas, t'as pas besoin de gueuler sur les gens comme si t'étais les messias, toi.
Ouais, ouais. Voilà.
Du coup, moi, j'ai assisté à un petit groupe sur un thème un peu équivoque, puisque la question, c'était à quoi ça sert le diagnostic, puisque ce groupe d'entraide se reconnaît entre bipolaire et déprimé. Du coup, un peu avec des réticences ou des questionnements. Donc vraiment, ce groupe a été chouette, hein, en tout cas en termes de respect de parole et de sincérité dans les propos. Et donc, ben, le diagnostic pour les personnes avec qui on était dans ce groupe peut vraiment servir pour un temps. Alors, il y a l'idée que déjà, c'est pas pour toute la vie. On peut mettre du sens sur ce qu'on vit à une époque, mais pas forcément s'enfermer dans le diagnostic. Il y a cette idée aussi qui permet de reconnaître les gens qui pourraient potentiellement vivre les mêmes choses que nous et de s'organiser une sorte d'entre-soi pour échanger sur les épisodes, quand est-ce que ça se déclenche, quel traitement on prend, comment on le gère, comment on parle de tout ça à sa famille, comment on trouve un psy qui nous correspond, quelles démarches on fait pour l'invalidité où on a dit tout à l'heure que c'était un peu la croix et la bannière. Donc finalement, c'était la question de comment, enfin, la question se pose de comment on s'en sert et comment il, et pas comment il nous dessert ce diagnostic. Alors, il y a aussi le rapport au temps qui a été évoqué, puisqu'ils expliquent que dans leur groupe d'entraide, il y a des gens plus jeunes qui viennent et qui viennent d'avoir ce couperet du diagnostic qui effondre toutes les attentes d'une vie et ce qu'on avait pu imaginer pour soi. Du coup, il y a aussi cette idée que finalement, le diagnostic il stigmatise surtout de l'extérieur. Et que si on se le réapproprie d'une certaine manière, il peut être utile. Ils expriment vraiment l'idée que ça permet une compréhension plus fine et rapide du fait du partage. On n'a pas expliqué à l'autre ce qu'on vit, puisqu'on le vit communément. Alors qu'un professionnel, ce qui a été dit, moi je trouvais ça joli, c'était le chemin vers une certaine acceptation est plus facile en tant que prise de conscience personnelle pour ces groupes qu'une annonce extérieure. Et il y avait une phrase, je ne la retrouve plus, mais je vais la retrouver. Je ne sais plus. Bon, en tout cas, l'idée, c'est vraiment ça. C'est que quand on va traduire ça à un psychothérapeute, un psychiatre, etc., il l'entend de sa place et pas peut-être de la place qui veut être dite. Du coup, il y a cette notion qu'entre soi, on peut davantage avoir, construire une conscience personnelle de ce qu'on traverse. Après, c'est aussi un apport d'outils et de réflexion avec... comment on vit avec la maladie, la question de l'hygiène de vie dont on a pu parler ici d'une autre manière, le sommeil, la nourriture, l'équilibre, et surtout tout un cheminement vers une appropriation de ce qu'on traverse, qui ne passe pas par un autre qui nous dirait ce qu'il sait sur ça, mais ce qu'on peut échanger. Il y a vraiment cette notion de pas de jugement et pas de solution. Pas de jugement parce que chacun vit ce qu'il vit au moment où il vit, et pas de réponse parce que ce serait forcément notre réponse à nous. Il y a eu tout un temps comme ça où, par exemple, il parlait des jeunes qui venaient et qui gueulaient avec leur diagnostic et il disait « Ben, nous aussi, on est passé par là, c'est ton chemin, tu en es là, faisons ce que tu peux. » Il y avait cette notion de non-jugement. Voilà, c'était... Alors, pour quelqu'un qui est anti-diagnostic, c'est un petit peu compliqué parce que un diagnostic, c'est quand même quelque chose qui fige une réalité et qui enferme. Et là, cette rencontre est intéressante parce qu'il y a, pour le coup, pour eux, une appropriation de ça.
Ouais. Et il y a aussi, on pourrait parler aussi de l'SPK, que nous, en général, dans cette émission, on a pas mal parlé des dangers de se faire diagnostiquer. Mais aussi, il y a des solutions, comme que les gens qui viennent de rencontrer, ou sinon comme l'SPK, que c'est l'association des patients socialistes, qui, eux, se revendiquaient patients et ils disaient qu'ils étaient malades. Alors là, c'est une manière aussi de voir la lutte. Et aussi, je voulais rebondir par rapport à ce que toi, tu disais, de que quand on a un diagnostic, on peut comprendre un peu comment on ressent les choses. Et par rapport à ce que moi, j'étais en train de parler après, parce que toi, tu disais qu'il faut expliquer à la famille, à les proches et tout ça. Alors aussi, par rapport à quand on a un rapport affectif, privilégié, on va dire, c'est aussi intéressant d'être capable de reconnaître quand on n'est pas disponible ou comment on fonctionne, expliquer tout simplement comment on fonctionne. Dire, ouais, écoute, maintenant, j'ai rien contre toi, mais vraiment, j'ai aucune envie de te voir à toi, même à personne, mais c'est pas un problème avec toi, c'est que j'ai pas envie de voir personne, toi, je suis sous la couette, super bien.
Ah oui, aussi.
Je suis au chaud. Et du coup, on vous propose un dernier petit morceau de musique avant la fin de cette émission.
I'm so happy, cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Book on ears, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. Yeah! So long.
Vous avez reconnu Nirvana, le morceau c'était Lithium. Alors j'ai cherché, est-ce que Kurt Cobain était bipolaire? Bon, ça fait partie de la rumeur. En tout cas, dans cette chanson, voilà, il parle un peu de ses états d'âme. Et juste une petite citation, à un moment dans la chanson, il y a « I'm so happy because today I found my friends, they're in my head ». Je suis tellement heureux parce qu'aujourd'hui j'ai trouvé mes potes, ils sont dans ma tête. Voilà, ça aide la tête quand même dans la vie.
Ah ben oui, tu vois, hein. Parfois ça nous fait du mal, mais parfois si tu as des copains, c'est magnifique. Alors maintenant, on va vous parler des, un peu des rencontres qu'on a fait avec les gens d'un infokiosque. C'est vrai que normalement, on a rencontré plein de gens comme ça dans des autres endroits où on est passé. Et l'histoire de rencontrer les usagers, c'est une nouveauté. Maintenant, on a rencontré les gens qu'on est un peu plus habitués, parce que c'est les gens un peu plus proches de notre manière de voir le monde. Mais que ces gens-là, c'était très chouette. C'est une infokiosque, c'est dans une énorme colloque où il s'habite 30 personnes.
Et voilà, un squat, ouais.
Je crois qu'à la base, c'était un squat, mais maintenant, je ne sais pas si c'est un squat.
C'est un squat conventionné, Suisse. Quoi.
Ouais, à la Suisse, voilà.
Peut-être. Où ils ont au moins 5 ans d'espérance de vie jusqu'à ce que la fac vende le terrain. Ouais. Et pour construire une résidence, je crois.
Voilà, un escouade, tout à fait, un escouade à la Suisse. Parce que voilà, je ne suis pas trop habitué à cette idée de convention, c'est pour ça que je ne savais pas. C'est vrai, je n'avais pas compris ce que c'était l'idée de convention. Et bon, en tout cas, c'était des gens bien sympathiques, qui vivaient ensemble et qui tenaient assez bien. Et que, comme d'habitude, mais ils se sont posé la question de qu'est-ce qu'on fait quand il y a quelqu'un qui ne va pas bien. Alors, c'est aussi pour ça qu'on était là-bas, un peu pour réfléchir ensemble. Et voilà, on a fait encore des petits groupes. Comme d'habitude, on a combien ?
On était une trentaine.
Une trentaine, ouais.
Et... Juste pour l'anecdote, c'est une université où ils étudient les grenouilles. Donc, il y a beaucoup de formoles avec des grenouilles, avec des gens bizarres.
C'est énorme. Et du coup, il va y avoir atelier sérigraphie, atelier conserverie, brasserie,
salle de concert,
salle de boxe. Bon,
ça fait rêver, quoi.
C'est Genève, quoi.
Plein d'étro, quand même.
Et du coup, on s'est dit, comme c'est un milieu qu'on connaît plus, on voulait vous présenter plus les trucs nouveaux, les thèmes qui nous semblaient un peu nouveaux. Du coup, Sandra, je ne sais pas si tu veux commencer.
Allez, alors, nous, on s'est posé la question en petit groupe de comment on communique entre nous. Parce que finalement, quels moyens on peut se donner de communication ? Parce qu'on est dans le constat que groupe de gens est égal problème de communication. Alors... L'idée un petit peu, c'était de réfléchir et de se réserver des petits moments, des petites ambiances où on formalise un temps par semaine, où on réfléchit. Alors, ils appelaient ça le point météo. Donc là, c'est un point météo un peu formel, où une fois par semaine, on se parle un peu de nos rapports humains. Après, il peut y avoir à côté des temps informels avec le choix de confident, alors avec toute une réflexion sur... En tout cas, les rôles que chacun vont prendre et comment ne pas être enfermé dans ces rôles, d'être le confident de tout le monde et que par comparaison, un autre ne reçoive rien ou ne fasse que donner. Donc, il y avait un questionnement autour de ces rôles. Ensuite, il y avait aussi toute la question de ce alors, travail, pas ce mot-là, cette sensibilisation à l'écoute et à l'attention. On s'est dit qu'il fallait peut-être des veilles sur l'attention à l'autre, en tout cas, de se donner des temps pour réfléchir à ça, comment on fait attention aux autres et comment on s'écoute, parce que finalement, c'est souvent les mêmes qui écoutent les autres. Après, il y avait aussi toute la question qu'on a pu aborder là de c'est une forme de réappropriation que de prétendre avoir le pouvoir de se parler. Alors, le pouvoir de se parler, c'est prendre la responsabilité affective de porter sur soi et d'aller parler à un autre, de dédramatiser ce que c'est que la parole, de dédramatiser le fait qu'on ne trouve pas forcément les bons mots pour dire les bonnes choses, que ce n'est pas forcément le bon moment, mais qu'en tout cas, dédramatiser toutes les culpabilités qui font que finalement, on ne prend pas la parole et on laisse l'autre dans ce qu'on imagine de lui et on ne va pas directement questionner quelque chose qu'on observe de l'extérieur. Voilà, ça c'est vraiment, je trouve, les points qu'on peut mettre en exergue de cette discussion. Après, il y a eu des échanges affectifs sympathiques.
Ah, c'est chouette.
Nous, de notre côté, on était un groupe de trois pour parler de la notion de groupe de veille. En fait, donc il y avait quelqu'un de Grenoble et quelqu'un de Genève, et puis moi. Et puis, on a constaté que cette idée de groupe de veille, donc il sera une espèce de rescue team qui assurerait une permanence et qu'on pourrait consulter, interpeller dès que quelqu'un ne va pas très bien quelque part et qu'on se pose des questions sur que faire, comment faire. Donc on a constaté que ça se faisait déjà plus ou moins de fait dans toutes les villes qu'on connaissait, mais qu'il serait quand même pas mal de formaliser ça pour à la fois rendre l'outil plus opérant et aussi plus fonctionnel, mais en se méfiant du gros risque qui serait la notion de devenir expert en soutien psychique, psychiatrique, expert en résistance à la psychiatrie. Et du coup, ça sera quoi le risque de ça, c'est de faire une espèce de caste supérieure, mais c'est aussi que du coup, tout le reste des manants se contrefoutent et délèguent généreusement dès que quelqu'un de leur entourage fait un peu du casque. Du coup, on s'était dit, le mieux, ce serait de faire un petit groupe là, mais qui serait aussi une sorte de premier relais d'un réseau beaucoup plus vaste, qui serait un peu aiguilleur, et qui aurait à sa disposition tout un tas d'infos qu'il pourrait partager généreusement. Ces infos, ça pourrait être un carnet d'adresses de soignants moins pires, un carnet d'adresses de lieux pour après l'HP, où est-ce qu'on va, mais aussi, par exemple, après avoir un peu pété les plombs dans le squat, où est-ce que je peux aller me mettre au vert, que ce soit chez des maraîchers, dans une menuiserie, dans divers types de lieux collectifs qui ont une activité concrète qui peut aider correctement. Ça peut être aussi de diffuser des témoignages, et ça c'est toujours la grande question, qu'on manque quand même pas mal de témoignages sur des retours d'expérience, de soutien qui ont été plus ou moins faciles, etc. Mais si on veut tirer enseignement de ce qui se passe, l'écrit c'est quand même un bon support. Et voilà, ouais, grosso modo, c'était ça l'idée. Se méfier de l'expertise, mais en même temps mettre à dispo de la doc, quoi, et des infos. Donc ce serait mettre à dispo, ça voudrait dire un lieu physique, que ce soit dans un infokiosque ou dans une maison collective ou quoi, qui serait accessible à certaines heures. Il y a eu l'idée aussi d'avoir un téléphone avec un répondeur pour ça, d'avoir sinon une adresse postale. On trouvait l'idée assez jolie parce que ça donne un temps pour... On parlait de courrier du cœur de la psychiatrie. Que c'est bien, voilà. Les 2-3 jours que requiert la poste peuvent permettre de respirer un peu, prendre de la distance et puis de ne pas répondre dans l'urgence et de répondre un peu plus chiadé qu'un mail un peu à l'arrache, quoi. Voilà.
Ok, et les petits groupes que moi j'avais fait, on était 4. Et on avait fait sur un sujet qu'on n'avait jamais fait, autant de rencontres qu'on a participé, mais ça c'était la première fois qu'on le faisait, et c'est comment rendre public une position par rapport à la psychiatrie, par exemple, comment se libérer de la psychiatrie. Et c'est vrai qu'une autre fois, j'avais fait un petit groupe qui c'était comment autodéfense face à la psychiatrie, mais c'est vrai que c'est différent de dire comment rendre public notre position. Alors, on a fait comme deux espèces de cercles. Le premier cercle, c'est les petits cercles, c'est-à-dire avec les gens plus proches, tu vois. Et la première chose qu'on a dit, c'est voilà, parler avec les gens que tu côtoies. Mais ce n'est pas que faire les points de météo, parce que ça, c'est très bien, cette idée des points de météo, tout ça, de parler de ce que tu ressens et tout. Mais maintenant, on est en train de parler comment rendre public une position politique aussi, tu vois. Alors, ça veut dire parler de écoute, je viens de lire ça, ça c'est intéressant, qu'est-ce que tu penses de ça? Un peu théorique aussi. Et sinon, on avait aussi discuté dans cette idée des petits cercles sur les théâtres de l'opprimé. l'idée de le théâtre de l'opprimé, c'est de visibiliser les rapports qu'on peut avoir entre nous. Ça veut dire qu'il y a une personne, un groupe de personnes qui jouent les rôles d'une situation concrète. Il y a les gens à l'extérieur qui regardent ce que c'est fait. Et après, voilà, il y a plusieurs techniques. Il peut interagir, il peut dire qu'est-ce qu'il aimerait bien changer ou pas. Bon, en tout cas, ça, c'est pour les petits groupes.
Juste, le théâtre de l'opprimé, c'est assez chouette parce qu'on met le corps dans la machine et on ne met pas que l'observation, on n'est pas que extérieur, on agit.
Ouais, c'est clair. Et ça vaut le coup un jour de faire une émission sur ça, je trouve. Parce que c'est assez intéressant. Après, on avait parlé sur les groupes un peu plus larges. Et nous, on a dit qu'il faut interpeller les gens, il faut discuter avec les gens. Alors, bien évidemment, la première personne avec qui il faut discuter, c'est les stations d'usagers et les groupes de cicatrices. Bien évidemment, échanger un peu notre point de vue, voir pourquoi on défend cette position, pourquoi on ne défend pas les autres. Après, bien évidemment, avec les proches, les familles, bien à l'HP ou bien dans des autres endroits où on les rencontre. Après aussi, avec les futurs professionnels, ça c'est une idée que c'est assez récurrent dans plein de luttes, par exemple dans la lutte de libération animale, mais c'est assez courant, ou en tout cas c'est une idée d'aller parler vers les futurs vétérinaires, dire écoute, tu sais qu'est-ce que tu vas faire dans ta carrière, c'est pas pour les encourager, mais pour dire en tout cas qu'ils sont conscients de ce qu'ils font, par exemple aller à la lutte anticarcérale, mais c'est les mêmes avec les avocats ou les futurs juges. Et bien évidemment, avec l'idée de la psychiatrie ou la psychologie, mais voilà, aller voir à la fac et dire, écoutez, bon, ça va se passer comme ça. Et après, bien évidemment, les professionnels qui se servent déjà, et même peut-être rentrer dans un rapport de force et de dire, écoutez, c'est sympa ce que vous faites, mais vous avez déjà entendu parler de ça, bon, je ne sais pas. Bon, en tout cas, les interpeller à les professionnels. Et pour finir, ce qu'on avait dit, c'est une phrase assez jolie, c'est faire converger les luttes des déviants de la norme. Alors voilà, on disait que la folie, c'était une déviation de la norme, et il y avait plein d'autres autour de plein de sujets, comme ça peut être, je ne sais pas, la sexualité, l'économie, plein de trucs, et que ça sert à bien de faire converger toutes ces luttes des déviantes.
Magnifique. Du coup, sur Toulouse, on vous propose encore quelques petites rencontres, pas seulement cette émission de radio, mais on a en projet aussi de monter un groupe de psychiatrisés.
Ouais, voilà, qui commencerait genre en octobre. L'idée, c'est de se retrouver donc en personne, passer par l'HP, mais ayant pris des traitements ou pas, ayant eu affaire à un psychiatre, etc. L'idée, c'est de définir dans un premier temps ensemble ce qu'on entend par psychiatriser de toute façon, et après se retrouver régulièrement et avec les contenus qu'on désira donner.
Et puis, alors là, ça va dépendre un petit peu de la situation d'un lieu qui s'appelle le Créa et qui vient de réouvrir un lieu, mais il y a un procès demain matin, donc on ne sait pas si ce lieu va tenir. Il y avait l'idée de toute façon de poursuivre une fois tous les 15 jours ou une fois tous les mois, je ne sais plus, un espace pour pouvoir parler de toutes ces questions ensemble, sous forme soit de grands groupes sur un thème spécifique, soit en petits groupes pour aborder les thèmes qu'on a envie d'aborder en petit nombre. Voilà pour les...
Soit en réfléchissant après avoir lu un texte ou avec aussi. Un support aussi. Ou soit pas du tout réfléchir et tout simplement faire un atelier de corps. Il y a plein d'idées. Ouais. Qu'on a laissé dans les... Je sais pas où. On les a laissés. Dans le coffre. On les a laissés dans le coffre.
En tout cas, c'est un espace à créer et à continuer à créer ensemble comme on a pu le faire pendant ces quelques mois qui ont passé avant l'été.
Ouais. Et il y a aussi des envies de projection, de discute, de théâtre, etc. Donc voilà, ça va suivre son cours. Et moi, juste pour finir, je voudrais rendre hommage aux faiseuses de poire de Saint-Amand, Roche-Savigny.
Et un petit coucou à la personne qui nous a téléphoné et qui nous a mis la pression pendant la musique. Ça nous ramène à l'extérieur, c'est très bien.
C'est super. Et bon, ça fait grand plaisir de revenir à faire la radio et voilà, on continue et c'est sympa.
Et on vous embrasse.
Et donc, la rediffusion de cette émission dans 15 jours, c'est-à-dire le mercredi 26 à 20h, et la prochaine émission dans un mois. Je ne connais pas la date par cœur. Bonne soirée.
Salut.
Salut.
Salut.